Monseigneur Pascal Gollnisch, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions, chose rare. Les catholiques orientaux, on les a beaucoup vus ces dernières semaines aux obsèques du pape François. Ils étaient là avec leurs habits traditionnels et leurs rites propres, dans leur langue aussi, comme l'araméen, pour bénir le corps du défunt pontife. Puis lors de la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, autour de lui, sur la tombe de Saint-Pierre, le pape leur a consacré une audience particulière aussi après son élection à l'occasion du jubilé des églises orientales. Il les a exhortés, je cite, « Il est essentiel de préserver vos traditions sans les édulcorer, dénonçant toute tentation d'homologation liturgique et spirituelle. Il a loué les liturgies orientales pour leur sens du mystère, leur beauté, leur capacité à impliquer l'homme dans sa totalité, les qualifiant de remède pour toute l'Église. Quel témoignage, Mgr Gollnisch, donne-t-il les chrétiens d'Orient à l'Église universelle ?
Eh bien, comme vous venez de le dire, le pape qui est en quelque sorte le patriarche des latins, même si le pape Benoît n'utilisait pas ce titre. Mais voilà, il y a ce qu'il nous dit à nous les latins, et puis il y a son ministère de pasteur universel. Je rappelle quand même que le christianisme est né en Orient. Que les orientaux, ce sont les premiers tout de même, qu'on retrouve au moment de la Pentecôte, dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, on voit la liste des chrétiens qui étaient là, des nouveaux chrétiens, les premiers chrétiens, ce sont, à l'exception de quelques Romains de passage, nous dit saint Luc, c'était des chrétiens d'Orient. Voilà, donc comme pasteur universel, il est normal que les patriarches soient associés aux grands événements qui concernent ce pasteur universel. C'était déjà le cas pour Jean-Paul II, c'était déjà le cas pour le pape Benoît, et donc évidemment pour le pape François, la présence des patriarches autour du cercueil du pape François et cette prière en Orient, cette prière en grec qui était dite au nom de tous les patriarches par le patriarche grec Melkite, grec catholique. Et puis, bien sûr, au moment du début du pontificat du pape Léon, cette prière devant la tombe de l'apôtre Pierre, et qui venait d'Orient. Rappelons-le que tout de même, c'était un oriental qui avait déjà fondé l'église à Antioche, selon la tradition, et qui, après ça, est allé à Rome. Donc, bien évidemment, cela souligne cette universalité. Catholique, ça veut dire universel, les auditeurs le savent bien. Ça montre que ces diverses traditions du monde grec, mais aussi du monde sémitique, syriaque, chaldéen, etc., du monde arménien, du monde égyptien, c'est-à-dire les Coptes, du monde éthiopien, du monde aussi byzantin en Europe de l'Est, du monde ukrainien, il y avait l'archevêque majeur ukrainien qui était là, et bien, cela participe à la catholicité de l'Église. Et donc, c'était très important qu'il puisse venir prier aux côtés du pape ou pour le pape.
Est-ce que c'est une manière pour le pape Léon XIV en particulier d'engager une pastorale un peu décentrée, comme si il s'agissait là de rappeler que Rome n'était pas le centre du monde, que c'est la capitale de l'Église, peut-être, de l'Église catholique, mais que l'Église est universelle et qu'elle existe dans ses rites et ses traditions, ses cultures à travers le monde entier. Est-ce que c'est un signal aussi pour les fidèles eux-mêmes ?
Non, je ne crois pas que ce soit, excusez-moi de dire ça comme cela, un signal du pape Léon. C'est une confirmation du pape Léon sur une tradition qui, notamment, avait été nouée par Léon XIII. Léon XIII, Léon XIV. Et Léon XIII est un pape qui avait appelé les orientaux à rejoindre l'Église catholique sans cesser d'être oriental. Vous voyez ? Donc, c'est une tradition qui, maintenant, a plus d'un siècle. Et grâce au pape Léon XIII, il y a donc eu cette ouverture en disant que l'Église catholique n'était pas que l'Église latine, même si nous, les Latins, on l'oublie parfois. Moi, le premier, quand j'étais plus jeune, l'Église catholique, c'est l'Église latine, mais c'est aussi ces églises orientales, comme l'Église maronite, par exemple, qui est très développée au Liban, notamment. Donc, ces églises orientales sont égales en dignité avec l'Église latine. Et ça, c'est le Concile Vatican II. Vous voyez, moi, je voudrais qu'on rende hommage un petit peu au pape Paul VI, qui a ouvert tous ces chemins et qui, ont été suivis par le pape Jean-Paul II, par le pape Benoît, par le pape François, et maintenant par le pape Léon. Je veux dire par là que c'est maintenant quelque chose qui est vraiment ancré dans l'Église. Ces églises orientales sont égales en unité avec l'Église latine, et le pape Léon confirme que ce sera un chemin qu'il voudra poursuivre, mais ce n'est pas une nouveauté du pape Léon.
En arrivant à la loggia, quand le pape est apparu, il a eu ces mots « la pace sia con tutti voi » et puis il a réitéré devant les églises orientales son appel à la paix. « Je mettrai tout en œuvre pour que cette paix se répande. Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux et la main sur le cœur. Je dis aux responsables des peuples, rencontrons-nous, dialoguons, négocions. » Quel rôle joue l'Église catholique pour la paix au Moyen-Orient en particulier ?
Alors d'abord, il n'aura échappé à personne que ce pape est américain, qu'il est en même temps péruvien et qu'il a beaucoup d'héritages internationaux qui lui permettent véritablement d'agir pour la paix. Et dans ce monde où nous voyons des tas de conflits qui semblent s'acheminer ou en tout cas se réaliser parfois, et les auditeurs savent bien tous ces conflits, je me permets de rappeler simplement le conflit entre l'Inde et le Pakistan qui a été extrêmement angoissant. De se dire que voilà, ce pape permet une rencontre entre le président Trump et le président Zelensky, que ce pape parle de paix, ce pape américain parle de paix. Et je trouve que dans ce monde en conflit, dans ce monde en tension, de tension exacerbée, nous avons besoin effectivement que le pape nous rappelle cet engagement de tout chrétien, disciple de Jésus-Christ, à œuvrer pour la paix.
Est-ce que vous attendez de lui qu'il aille justement peut-être comme ses prédécesseurs en Terre Sainte, comme le pape François en Irak, en tout cas dans les pays du Moyen-Orient où les chrétiens sont parfois minoritaires, mais où leur place a un sens historique ?
Alors, pour répondre à votre question, d'abord, il ne me parvient pas de dire ce que j'attends de lui, parce que ce n'est pas mon collaborateur, ce n'est pas mon salarié, c'est pas... Voilà, donc tout que je n'ai pas, si vous voulez, d'ordre à lui donner. Mais... bien évidemment, à mes yeux, le pape se rendra, comme tous ses prédécesseurs, depuis Paul VI, à Jérusalem. Et il y aura certainement cette occasion à Jérusalem d'avoir une rencontre œcuménique avec notamment le monde de l'orthodoxie. Donc je pense que ce sera un moment extrêmement important, comme ça l'a été pour chacun de ses prédécesseurs.
Surtout une année jubilaire, les 1700 ans du Concile de Nicée, c'est l'occasion, quoi.
Alors, les 1700 ans du Concile de Nicée font que, vraisemblablement, on peut espérer qu'il se rende à Nicée, donc en Turquie d'aujourd'hui. Et là aussi, c'est une rencontre très œcuménique, puisque tous les chrétiens se retrouvent dans le Concile de Nicée, qui a été la proclamation de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes, ça veut dire un Dieu d'amour. Parce que, quand même, pour aimer, on peut s'aimer soi-même, c'est pas interdit d'ailleurs. Mais tout de même, l'amour, en principe, c'est relationnel. Ça veut dire que pour que Dieu soit amour, il faut qu'il y ait une Trinité en Dieu. Excusez-moi de ce petit raccourci, que les théologiens me le pardonnent. Voilà. Et donc, que le pape aille à Nicée, qui est vraiment cette rencontre œcuménique à Nicée, me semble extrêmement important. Et puis, je crois qu'il y a deux pays du Moyen-Orient où le pape François, me semble-t-il, aurait aimé se rendre. Il n'a pas pu se rendre pour des raisons politiques internes à ces deux pays, parce qu'il n'y avait pas de chef d'État, etc. C'est le Liban. Et je ne doute pas que le pape Léon veuille aller au Liban. Le deuxième pays, c'est la Syrie. Voilà, c'est complexe en Syrie. Vous le savez, on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'inquiétude. Et je crois que si le pape allait en Syrie, ce serait un signe. Ayant rencontré l'actuel président intérimaire de la Syrie, je me suis permis de lui suggérer, on ne savait pas encore qui ce serait, hein, d'inviter le futur pape à venir en Syrie. Je crois que ce serait très important.
La matinée se poursuit sur Radio Notre-Dame et RCF. Et à 8h15, vous retrouvez la suite de l'entretien du week-end avec Étienne Pépin.
Monseigneur Pascal Golisch, merci d'être avec nous sur RCF et Radio Notre-Dame ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient qui est engagée tout particulièrement dans des pays où les chrétiens sont les victimes collatérales des crises et des guerres, sont victimes de persécutions en Terre Sainte, en Ukraine, en Arménie, en Syrie, au Liban, en Irak. Quel est le sens de leur présence, de la présence des chrétiens dans ces zones de guerre, alors même qu'ils sont menacés ? Pourquoi restent-ils ? Quel est le sens de leur présence là-bas ?
Eh bien, vous avez des raisons de dire qu'ils rencontrent des difficultés, encore qu'il faut les mesurer selon chaque pays. Je vous donne deux exemples. En Ukraine, la quasi-totalité des habitants, ce sont des chrétiens. Et la quasi-totalité de leurs adversaires, ce sont des chrétiens. à part quelques Coréens et Coréens du Nord qui se promènent par là. Hein. Donc vous voyez que même entre chrétiens, les conflits sont possibles. Et en Éthiopie, les guerres civiles qui ont fait d'énormes victimes, des quantités énormes de victimes, ce sont malheureusement aussi entre chrétiens. Donc vous voyez, la réalité est complexe. Les chrétiens ne sont pas simplement discriminés, ils ne sont pas toujours persécutés. Mais je crois qu'il faut qu'on soit très prudent sur ce terme. Il faut qu'on utilise le mot persécution quand il y a persécution. Mais quand il n'y a pas persécution, il ne faut pas l'utiliser. Et par exemple, les chrétiens d'Égypte aujourd'hui ne sont pas persécutés. Il peut y avoir des discriminations, mais c'est un peu autre chose. Mais surtout, les chrétiens dans tous ces pays, qui sont chez eux, hein, ils sont depuis 2000 ans, eh bien, ils sont en mission. Donc, nous ne sommes pas simplement aux côtés de gens qui seraient persécutés ou discriminés, nous sommes aussi aux côtés de gens en mission.
Ça veut dire quoi en mission? Quel rôle ils jouent sur place? On prend souvent l'exemple du Liban, où finalement l'Église catholique a un rôle social majeur, même si les chrétiens ne sont pas majoritaires. L'Église catholique, justement, intervient dans les hôpitaux, les écoles, par exemple. De manière générale, quelle est la mission des chrétiens là où ils sont? Est-ce qu'ils ont un rôle particulier dans les sociétés dans lesquelles ils existent encore au Moyen-Orient?
Eh bien, vous avez tout à fait raison. Et ils jouent ce rôle au Liban, mais pas seulement au Liban, en Égypte, en Terre Sainte, en Syrie, en Irak. La mission des chrétiens, c'est l'évangile. C'est en ce sens-là qu'on est proche d'eux, parce que c'est aussi notre mission, mettre en œuvre l'évangile. Et les chrétiens ne sont pas en Orient une force politique, ils ont pu être jadis, ni une force financière, ni une force militaire. La force des chrétiens d'Orient au Moyen-Orient, c'est l'évangile. Ça se traduit par des œuvres d'éducation ou de santé au service de l'ensemble de la population, ce qui les crédibilise dans la population. Ne nous y trompons pas, beaucoup de musulmans supplient les chrétiens de rester, car ils savent la valeur de l'action de ces chrétiens dans les écoles et dans les hôpitaux. Mais aussi, les chrétiens d'Orient sont des gens qui parlent avec tout le monde. Les chrétiens du Liban, ils parlent avec les sunnites, ils parlent avec les chiites, ils parlent avec les druzes. Ils sont les seuls à parler avec tout le monde. Et par conséquent, ils peuvent faire progresser les pays dans lesquels ils se trouvent. De plus, puisque le pape Léon XIV fait référence à Léon XIII, qui est le grand pape des premières encycliques sociales, essayant de dépasser en Occident les problèmes de tension entre les ouvriers et les directeurs, entre le travail et le capital, eh bien, je crois que cette doctrine sociale de l'Église, qui était extrêmement occidentale dans sa genèse, eh bien, il faut l'élaborer aussi dans ce contexte du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a besoin que les chrétiens et les catholiques élaborent une doctrine sociale réaliste, viable, prophétique aussi, pour les populations du Moyen-Orient. Là, il y a une tâche immense pour les chrétiens de l'Orient et pour nous à leur côté.
Je voudrais qu'on prenne une seconde pour évoquer quand même la Terre Sainte, où les chrétiens là sont ultra minoritaires. Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, faisait partie des papabilés. Il est rentré là en Terre Sainte. Est-ce que justement c'est important d'avoir une personnalité forte à la tête de l'Église catholique en Israël et en particulier pour soutenir ces chrétiens de Gaza qui sont vraiment en grande difficulté. Comment vous sentez les choses pour les chrétiens en Terre Sainte, alors que le conflit s'enlise et que ça semble être chaque jour un peu plus dur que la veille?
Alors vous avez raison, les chrétiens de Gaza sont dans une situation extrêmement difficile. Le pape François, jusqu'au dernier jour de sa vie, les appelait vraiment quotidiennement au téléphone pour leur parler, pour les encourager, pour les écouter. Ce qui se passe en Terre Sainte supposerait une émission de plusieurs heures, vous le devinez bien. Parce que les problèmes ne datent pas non plus du 7 octobre. Ce sont des problèmes qui datent depuis 1948, sans remonter jusqu'à la période mandataire ou la période ottomane, ce qui serait quand même aussi très éclairant. Bon. Donc, les chrétiens ont une parole à dire, ils ont des témoignages à donner. Il y a eu un voyage récent du Conseil caritatif des évêques de France en Terre Sainte, donc des évêques y sont allés, et des associations chrétiennes catholiques sont allées avec eux, et ils ont pu donner un témoignage de proximité et d'amitié. Et bien évidemment, là aussi, même si les chrétiens doivent parler de ce qui relève de la justice Et en Cisjordanie, le comportement des colons est évidemment contraire à la justice, il faut le dire. Mais en même temps, les chrétiens essaient de construire les conditions de la paix pour l'ensemble des populations. Donc, à l'intérieur du monde palestinien, les chrétiens sont une petite minorité, mais une minorité qui a une voix forte parce qu'elle est vraie. Et la vérité, ne soyons pas comme Staline qui se moquait du Vatican en disant « Le Vatican, combien de divisions ?» Parfois on me demande « Mais combien sont-ils » Mais c'est pas ça la question. La question c'est est-ce que ce qu'ils disent est vrai ? Est-ce que ce qu'ils disent est juste ? La défense de chaque personne, de chaque famille, le respect des différentes communautés religieuses, etc., etc. Ça c'est la vérité que les chrétiens portent, quel que soit leur nombre, et en ce sens-là, évidemment, le patriarche latin de Jérusalem joue un rôle extrêmement moteur.
Monseigneur Pascal Gollnisch, dans quelques semaines, vous allez quitter un poste que vous avez occupé pendant 15 ans comme directeur de l'œuvre d'Orient. On parle régulièrement avec vous à l'antenne de la situation de ces chrétiens, en particulier au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous retenez de ces 15 années ? Comment est-ce qu'elles vous ont transformé comme homme, comme prêtre, comme missionnaire peut-être aussi, d'une certaine manière ?
Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce qui m'a été donné dans ma vie de prêtre, que ce soit comme aumônier jeune, que ce soit comme curé, et donc directeur de l'œuvre d'Orient, ce à quoi m'a invité le cardinal André 23. Au début, je me demandais un petit peu en quoi ma mission était sacerdotale, parce que j'avais des sommes importantes à gérer, j'avais des relations diplomatiques avec des autorités laïques, mais aussi avec les patriarches orientaux. Je me suis dit, enfin, tout ça, un laïc le ferait aussi bien que moi. C'est en côtoyant la vulnérabilité de ces chrétiens d'Orient, dans leur souffrance parfois, vis-à-vis de Daesh par exemple, dans les discriminations qu'ils subissent, dans le fait qu'ils deviennent de plus en plus minoritaires dans leur propre pays, c'est parce qu'ils sont vulnérables qu'ils m'ont rendu prêtre, que j'ai pu les porter dans ma prière et être porté par leur prière. Et je me souviens vraiment de rencontres, vous savez, c'était à même le trottoir, parce que les gens avaient été chassés par Daesh, et ces gens avaient tout perdu, et j'ai eu des relations vraiment spirituel avec ces gens à la fois effondrés, écrasés, détruits, mais en même temps chrétiens, priant et pardonnant. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais prêtre à leur côté, j'étais prêtre avec eux. Alors, en quittant mes fonctions, au bout de 15 ans, c'est vrai, c'est toujours difficile. J'essaie de pas trop le montrer à mes collaborateurs, mais enfin, je le ressens quand même. Mais j'ai beaucoup de joie à penser que mon successeur, qui est l'actuel secrétaire général de la conférence épiscopale, Mgr Hugues de Voilemont, saura certainement poursuivre l'action menée. Il sera marqué de sa personnalité qui est riche et belle, l'œuvre d'Orient, et donc je pars très confiant.
Et ce sera l'occasion de rendre grâce pour ce ministère particulier ce 25 mai à Notre-Dame de Paris à partir de 15h, la messe annuelle donc de l'œuvre d'Orient qui sera célébrée avec le cardinal Louis-Raphaël Sacco. C'est le patriarche des Chaldéens en Irak. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui sur RCF et Radio Notre-Dame. Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Étienne Pépin. En effet, votre invité du week-end était Mgr Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, pour évoquer la journée internationale des chrétiens d'Orient qui aura lieu demain. Vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur le site de vos radios favorites, rcf.fr, radionotredame.com. Vous pourrez aussi réécouter l'invité culture qui était consacré à une superbe et émouvante exposition « Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire ». C'est en ce moment à l'Institut du Monde Arabe à Paris. On en a parlé avec la commissaire de l'exposition, Élodie Bouffard. Allez, restez à l'écoute. La matinée se poursuit avec dans moins de 10 minutes votre agenda local.